Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, on est ravis de vous retrouver. Comme chaque vendredi, vous le savez, on est ensemble dans le Mac de l'Immo et comme chaque vendredi, j'ai mon invité avec moi, il s'agit de Xavier Bellevaux, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Comme un vendredi, très bien, bientôt le week-end.
Ça pique pas trop ?
Je me lève un peu tôt, 4h50 le matin, non mais c'est vrai que les journées sont longues, donc le week-end va faire du bien.
Alors juste avant de commencer l'émission, On vient d'écouter votre première musique, donc Another Love de Tom Odell. Pourquoi ce choix musical ?
C'est une vaste question. En réalité, pour tout savoir, j'ai parlé un peu de ma vie privée. Je me suis marié l'été dernier, après 13 ans de concubinage. Et c'est une chanson qui a été présente dans le mariage et elle parle beaucoup de résilience. Elle parle beaucoup de faire des choses, de penser à l'autre, de construire des choses avec passion. Et pour moi, je trouvais que c'était des choses qui nous collaient assez bien et qui me collaient assez bien parce que, effectivement, je ne vois pas mon métier comme quelque chose où je dois me lever pour gagner de l'argent, mais plutôt comme une passion.
Voilà. D'accord. Donc c'est pour rappeler la passion.
Oui, pour rappeler la passion, la solidité aussi, et puis la résilience, parce qu'en 13 ans, comme beaucoup de gens, on passe des moments difficiles, on perd des proches, etc. Ouais. Donc c'est aussi comme ça qu'on crée du lien, et je pense que c'est important de se rappeler ces moments-là.
Alors, Xavier Bellevaux, vous êtes donc directeur général de WeInvest France. On va parler de WeInvest dans quelques instants. Avant de parler de votre parcours, de WeInvest, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs en quelques phrases, dire qui vous êtes ?
Allez, rapidement, donc, je suis Xavier, j'ai 44 ans, bientôt 45. J'ai commencé l'immobilier il y a un peu plus de 20 ans, mais pour autant, j'ai eu une carrière avant l'immobilier, c'est-à-dire comme quoi on dit souvent que la reconversion et qu'on voit souvent que dans l'immobilier, toutes les personnes ne sont pas issues de l'immobilier. J'en fais partie au démarrage, puisque j'ai commencé en œnologie et très exactement en sommellerie, au départ. J'ai commencé mon parcours en sommellerie, puis j'ai évolué en 3 macarons Michelin. J'étais un des plus jeunes sommeliers de France, ce qui m'a permis ensuite de travailler pour, à l'époque, la maison Claire Tétinger. Je m'occupais du groupe Baccarat, dans le 16e à Paris. Et puis, lors d'une rencontre, comme quoi c'est aussi le destin de rencontrer du monde, j'ai été approché par le groupe MacArthur Glenn, qui s'occupe de notamment commercialiser les magasins d'usine avec des pieds d'immeuble en retail. Et à la fin du dîner, il me dit « ce serait bien que vous m'appeliez demain ». J'ai passé cet appel et 2 mois après, je commençais pour commercialiser donc des boutiques en centre commercial ouvert. Voilà. Suite à ça, j'y ai pris goût, c'était hyper intéressant.
Et juste le switch, en fait, vous en aviez marre de ce que vous faisiez, vous aviez fait le tour.
Non,
qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
Non, après, pour être très sincère et parce qu'on se dit tout, à la base, je voulais être avocat en droit des affaires, ce qui n'a rien à voir. Et malheureusement, j'ai 2 petites sœurs handicapées, j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans, donc j'ai compris qu'il fallait qu'à un moment, je puisse travailler. Donc j'étais l'aîné, donc je me suis dit je vais mettre de côté en fait ma carrière professionnelle à l'instant T pour plutôt trouver un métier qui va me permettre de gagner
vivre,
ma vie rapidement pour pouvoir aider au foyer parce que ma mère s'est retrouvée seule avec 5 enfants à élever et c'est jamais super facile quoi. Donc mais ça s'est fait très naturellement donc du coup j'ai eu la chance comme j'avais une bonne de bonnes notes etc de pouvoir passer 3 diplômes en moins de 2 ans, de pouvoir très vite aller en 3 macarons Michelin, d'être pris aussi par des maîtres d'apprentissage géniaux et qui m'ont aidé vraiment évolué, qui m'a permis tout simplement. Et je m'étais dit, avocat des droits des affaires, l'immobilier, ça m'intéresse. Donc je m'étais dit, ça va me ramener un petit peu vers quelque chose qui m'intéressait. C'était un peu ça. Et curieusement, lors d'une deuxième rencontre avec monsieur Michel Simon à l'époque, qui était le détenteur du réseau Michel Simon, là aussi, après une discussion, je rejoins le groupe Michel Simon à Paris et il s'avère que derrière, je m'associe, ça marche très bien, je reste 10 ans dans le réseau. Et puis, à partir de là, c'est parti. Donc là, je commence comme consultant sur un secteur à Paris qui était le 13e arrondissement. Je fais un peu plus de 400 000 euros hors taxes de chiffre la première année. Puis j'évolue. Et puis en évoluant, en fait, tout simplement, je me dis, l'immobilier, c'est génial. Donc, à partir de là, je reprends mes études. Je passe une licence en droit des affaires, ce qui me permet, en fait, de pouvoir rattraper ce que j'avais pas fait avant, en cours du soir. Donc, c'est assez drôle parce que je fais ma journée de boulot. Et puis, à 19h, je réembarque et je bosse jusqu'à minuit, 2h du matin.
Et là, vous avez quel âge à ce moment-là ?
22-23 ans. 22-23 ans. Et donc, à partir de là, je travaille, c'est Auguste Thouars, qui est devenu Arthur Lloyd par la suite. Et puis, juste avant d'arriver chez Michel Simon. Voilà. Et après Michel Simon, en 2015, alors j'ai eu tous les postes, c'est-à-dire que j'étais expert en cession d'entreprise pour les biens de plus de 10 millions d'euros, spécialisé en CHR, café, hôtel, restaurant, métier de bouche, donc tout ce qui était hôtel, bureau, etc. Et toute typologie de biens d'actifs. Donc c'est vrai que je me mets à rencontrer des dirigeants d'entreprise tous les jours, à analyser des bilans tous les jours. Donc du coup, je reprends des cours du soir pour passer un diplôme juste en dessous de l'expertise comptable, pour comprendre bah, c'est quoi le BE, c'est quoi le bilan, comment on gère la trésorerie, le compte de résultat. Et puis bah, c'est super, je m'éclate. Et puis parallèlement à ça, effectivement, en 2015, j'étais à ce moment-là, j'habitais Lyon. Voilà. Et j'ai le groupe Orpi qui me contacte et qui me dit bah, ils avaient une marque fille qui s'appelait... c'était même pas une marque fille, c'était une activité qui s'appelait Orpi Commerce Entreprise. Ils me disent bah, on a besoin d'un consultant pour bah, développer cette activité et le pro dans le réseau. Voilà. Donc à partir de là, bah, effectivement, j'arrive en tout début 2016 chez Orpi et j'ai commencé par développer une marque fille qui s'appelle toujours Orpi Pro et puis à prendre un peu plus de poids dans l'entreprise avec plus de services et je finis directeur d'exploitation pour la coopérative qui représentait à peu près 9000 collaborateurs et puis un peu plus de 1000 dirigeants. Voilà. Mmh. Donc voilà un peu le parcours et c'est vrai qu'après, bah, l'année dernière, au mois d'avril, dans la même semaine, trois cabinets de chasse, trois propositions de poste et je me retrouve en Belgique. Voilà.
Vous vous êtes fait chasser à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Je me suis fait chasser parce que j'étais très bien. Faut quand même dire les choses. Hein. Orpi est un réseau solide, c'est une très belle coopérative. Voilà, et c'est des gens qui sont fantastiques. Par rapport à ça, ça fait vraiment une évidence. Mais effectivement, je me fais chasser et je me dis, bah voilà, ça fait aujourd'hui pratiquement 8 ans que j'y suis. Ouais. Dans ma carrière, j'avais cette envie de pouvoir évoluer, ce qui n'était pas possible à l'instant T chez Orpi. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, si je ne fais pas ce type de choses à 44-45 ans, je le ferai peut-être pas. Et puis le projet WeInvest, donc en Belgique, quand je rencontre les dirigeants, était vraiment génial parce que c'était l'opportunité de pouvoir en fait créer un réseau de toutes pièces sur la partie française et pourquoi pas demain en Espagne et ailleurs, mais avec vraiment une stratégie qui allait être réfléchie par moi et avec aussi un gain de rapidité dans la prise de décision.
Donc plus d'agilité.
Plus d'agilité.
Plus de responsabilité.
Bien sûr.
Plus de, un pouvoir décisionnaire.
Plus rapide.
Ouais, plus rapide.
Plus rapide, parce qu'une coopérative, effectivement, les avantages, c'est aussi que chaque dirigeant décide, mais aussi les inconvénients, ouais. C'est-à-dire que c'est aussi plus difficile et plus long pour faire passer des décisions. Voilà. Donc je m'étais dit, bah, j'ai envie de rapidité, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de. Je pense que j'ai la capacité aujourd'hui de le faire et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai toujours été un garçon, on va dire, de challenge, de passion et je me suis dit, bah, c'est un challenge de plus, il faut le tenter et c'est une super expérience. Et je regrette pas du tout.
Vous êtes ambitieux, en tout cas.
Alors, je sais pas si. Je pense que l'ambition, elle est aussi venue au fil des rencontres. Ce qui est vrai, c'est que ça, c'est une réalité. Je travaille beaucoup. Je dis toujours que je suis souvent moins intelligent que les autres. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Par contre, j'ai une grande capacité de travail. Voilà, c'est-à-dire que je peux rester de 8 heures, et tous mes précédents employeurs le diront, jusqu'à 22-23 heures au bureau, en étant productif.
Voilà, concentré, vous avez un pouvoir de concentration, oui, une capacité de concentration qui est...
Et puis, j'ai toujours aimé des projets un peu fous. Moins le projet sur le papier va être facile, plus il m'intéresse. C'est pareil quand je faisais de la cession d'entreprise. Plus le montage était compliqué, plus il fallait regarder avec les holdings, les petites filles, etc. Il y avait des montages un peu complexes, plus ça me plaisait. Voilà, donc j'ai plutôt tendance à aimer les défis. Ça, c'est une réalité. Donc, je pense que je suis ambitieux peut-être, mais avant tout, je pense que je suis passionné et j'aime l'action, j'aime le mouvement, j'aime porter des projets, les mener au bout, et d'en voir ensuite, de pouvoir en récolter les bénéfices avec toute l'équipe, parce que faut être clair, je pars du principe qu'on n'est jamais... on n'est jamais seul. Voilà, la réussite, elle peut pas être seule. La réussite, elle passe par des équipes, voilà, qui travaillent dur, qui font les choses et qui vous permettent tous ensemble de pouvoir grandir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment mon mindset de toujours, c'était de se dire, avec les autres, on va beaucoup plus loin que tout seul, quoi.
À travers votre parcours, ce qui est frappant, c'est qu'on voit que ça a été un enchaînement de rencontres, en fait, qui ont un peu déterminé aussi votre parcours. Bon, après, l'envie était là, hein, je pense que vous avez peut-être provoqué ces rencontres. Est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que vous croyez à ces choses-là?
Alors oui, pour être très clair avec vous, tous les matins, je me lève, j'ai le sourire. Comme tout le monde, il y a des moments où j'ai un coup de mou, c'est une réalité, mais ça dure jamais très longtemps. Parce qu'en réalité, je pense que le plus important, c'est d'avoir une bonne hygiène. Oui. C'est-à-dire qu'à la voix, c'est de savoir prendre du temps pour soi, c'est d'avoir accepté de déconnecter. C'est vrai que je fais partie, ça te fait toujours rire, mais je coupe mon téléphone. tous les soirs à 21h, je coupe mon téléphone jusqu'au lendemain 7h. Le week-end, je fais très peu attention à mon téléphone.
Alors, vous m'avez déjà envoyé des messages pour le travail un peu plus tard que 21h.
C'est vrai. Ah, mais c'est parce qu'il y avait une urgence.
Oui,
mais sinon,
vrai.
Je le
vous
fais...
êtes très réactif et d'ailleurs, c'est très agréable hein, de... Mais...
En fait, c'est parce que je suis fainéant. Je me dis que si c'est pas traité tout de suite, j'ai peur d'oublier. Voilà.
Ouais.
Et comme il y a beaucoup de choses à faire, donc j'essaie
vraiment...
Mais
en tout cas, vous essayez de décrocher, et ça, c'est important pour vous. Vous sentez que c'est quelque chose qui est important quand on veut réussir, de savoir prendre des moments pour soi?
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que pour déjà pas avoir la grosse tête et aussi pour être concentré sur ses objectifs et se remettre en question, je pense qu'on a besoin de se vider la tête.
Oui.
On a besoin de faire autre chose. C'est vrai que moi, je fais deux fois par semaine du sport. C'est pas énorme non plus. J'aimerais en faire plus, mais je m'y tiens.
Oui, mais c'est déjà bien.
Voilà, je prends deux heures pour
c'est
regarder.
C'est quoi comme sport, juste?
En fait, je fais surtout de la musculation et puis j'ai de la passion.
Ouais.
De la salle. Et puis j'ai une, parce que j'ai un coach. Et puis j'ai une passion depuis tout jeune, c'est les chevaux. Voilà.
D'accord.
Donc voilà, donc effectivement, dès que je peux retourner monter, je monte.
Ce qui permet de bien déconnecter.
Complètement, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à chaque exercice que vous demandez à votre cheval, s'il veut pas le faire, il le fera pas.
Il le fera pas. Ouais.
Et vous allez devoir apprendre à vous dire, ok, je vais pas exactement ce que je voulais, mais je vais me contenter de cela et on va arrêter. Et c'est hyper formateur, voilà, parce que ça nous permet de comprendre que on peut pas toujours atteindre ce que l'on veut très rapidement, et par moments il faut accepter de devoir faire un pas en arrière pour en faire deux après. Voilà. Et c'est un vrai. En tout cas, dans mon cas, parce que je suis un garçon un peu hyperactif et je parle toujours très vite, etc. C'est quelque chose qui permet beaucoup d'apaiser et de pouvoir en fait me recentrer sur l'essentiel. Et puis la famille, je pense que voilà, on a tous besoin un moment de se retrouver, de parler à autre chose que l'immobilier. Moi, j'en parle toute la semaine. J'adore ça. Le week-end, quand les amis viennent à la maison, la première chose, alors comment se porte le marché de l'immobilier? Des fois, on a juste envie de dire, parle-moi pas d'immobilier, s'il te plaît, parle-moi de tout sauf de ça.
Vos proches ne font pas tous partie du secteur de l'immobilier?
Non. Non, pas du tout. C'est très diversifié. Je pense que j'ai un tiers qui fait partie de l'immobilier.
D'accord.
Et le reste n'est
votre
pas
votre moitié, c'est pas le cas.
Pas du tout, non, pas du tout. Non, elle est ingénieure, donc rien à voir. Surtout sur l'industrie.
Donc ça fait du bien aussi de pouvoir couper, j'imagine. C'est agréable quand on rentre chez soi de pas pouvoir couper. Et puis ça permet peut-être de mieux réfléchir sur certaines opérations.
Ça permet aussi surtout de poser les choses.
Ouais.
Voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y a des moments où on veut aller vite. Et quand on veut aller vite, il y a des moments où il faut être capable de se dire « Attends, je prends pas la décision tout de suite. Je vais me laisser 48 heures ou une semaine. Je vais bien poser les choses. Je vais réfléchir. Je vais passer des appels. J'ai la chance d'être bien entouré autour de moi professionnellement et d'appeler des anciens collègues ou autres qui me disent attends là fais attention etc. Donc ça permet aussi de pouvoir en fait mesurer aussi sa prise de risque. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui dans tout projet, c'est ce que je dis toujours. J'ai toujours eu cette vision quand on porte un projet, il faut tout de suite penser à quel sera le projet qu'on a lancé à 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on réalise toute la construction des outils ou tous les process comme si on allait y être dans 5 ans. Alors que si on commence à avoir une vision trop serrée, souvent, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, on se retrouve à devoir refaire des extensions. Et en fait, on perd un temps fou. On crame par moment un pognon qu'on n'a pas. Donc, il faut être très vigilant sur ces éléments-là. Voilà.
Est-ce que du coup, là, d'après ce que je comprends, vous aimez, vous avez besoin d'être entouré, de demander des conseils, en tout cas,
oui,
professionnels, d'être challengé?
Oui, très sincèrement, j'ai jamais eu honte. Et je pense que ça, c'est important. De dire des fois je t'appelle parce que j'ai pas le moral, je t'appelle parce que je me demande si je vais y arriver, je me demande si le costume est pas trop grand. Et puis vous savez, moi je dis toujours en rigolant, je viens d'un milieu modeste où très vite j'ai dû travailler pour nourrir, pour aider à la maison et nourrir ma famille. Donc du coup on a souvent le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on se dit est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que je suis compétent, et souvent c'est quelque chose que je portais pas parce que je gardais ça très en moi. Et j'ai découvert en fait que j'étais pas le seul du tout, qu'il y a beaucoup de gens comme ça, et même de différents horizons, parce que c'est pas parce que tu viens d'un milieu modeste et d'un milieu non modeste que pour autant t'as pas des craintes pour plein de raisons, parce que dans ta famille il y a quelqu'un dans ta fratrie qui était peut-être plus puissant, donc du coup toi t'étais plus en retrait, etc. Donc je me suis dit en fait il faut pas être comme ça, et j'ai jamais eu peur de demander conseil, de dire je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas. Et je le dis toujours, même dans ma profession, dans l'immobilier, il ne faut pas avoir honte de dire à un de ses clients je n'ai pas la réponse à l'instant T, et de tout faire pour aller la chercher. Je pense que ça c'est un élément de sincérité, et le client ne peut qu'y être sensible. Moi, je pense qu'il n'y a rien de pire, je dis toujours, que le vendeur d'aspirateur. Il a réponse à tout, en tac au tac, et souvent, en fait, il néglige la qualité de la réponse.
Bien sûr.
Voilà. Et je pense que ça, en tout cas, c'est important de savoir se poser par rapport à ça et accepter qu'on puisse avoir des faiblesses, un coup de mou, de ne pas être à la hauteur. Voilà, il y a des moments où je le sais, il y a des moments où j'ai des petits coups de mou. Ça ne dure jamais longtemps, mais il faut les accepter.
Mais qu'est-ce qui vous motive quand vous avez des petits coups de mou? De la musique est-ce que vous...
Alors, je vais courir.
Vous
déjà, parce que ça vide la tête.
Ouais.
Et puis, je vais faire une rando. Voilà, tout bête. Voilà,
donc, la nature.
La nature, ouais. Je très très nature et puis très foyer, c'est-à-dire de se retrouver à la maison, devoir faire des activités toutes bêtes. Hein. J'ai un potager, j'adore jardiner, voilà. Donc du coup, ça permet de penser à autre chose. Ou alors, dans ma belle famille en Bourgogne, je vais couper du bois le week-end, ça aussi.
C'est vrai que le couper du bois, ça, c'est génial pour couper.
Ouais, ben pour couper, il n'y a pas d'autre mot. J'ai trouvé que c'était l'activité, en tout cas, la plus lucrative pour vraiment se déconnecter.
Voilà. Et vous, on parlait de l'hygiène de vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites aussi? Vous dormez bien? Vous faites attention à...
Je suis un petit dormeur, mais je dors bien. En gros, grosso modo, je me couche vers 23h, 23h30 et je suis levé entre 4h50 et 5h15
du matin.
Voilà, j'ai des petites nuits, mais elles sont vraiment... J'ai ce besoin-là. Alors, si on remet l'origine, à 16 ans, je travaillais en moyenne de 7h à 23h minuit, parce que j'étais dans la restauration. Donc, je pense que mon corps a été habitué sur des longues plages horaires assez jeunes, et j'ai gardé un peu ce rythme.
Ce rythme-là, oui.
Voilà, ce rythme-là. Donc du coup, j'ai pas besoin de beaucoup dormir. Donc, et dès le matin, je suis très bavard, très opérationnel.
Donc, opérationnel.
Oui, voilà. Et du coup, en fait, j'ai pas de routine, si ce n'est qu'il y a des petits moments où je fais Petit Bambou, je fais 5 minutes de méditation par jour. Parce que je trouve
c'est
que
l'application, c'est Petit Bambou.
Oui, c'est
hein.
ça, c'est une application que je trouve assez ludique. Alors, j'ai essayé le yoga, ça marche pas pour moi, je pense que ça marche pour plein de gens. Mais cette petite application me permet vraiment de déconnecter, de pouvoir. Ou alors, je fais mes réunions avec mes collègues dans un parc debout pendant 20 minutes, ce qui me permet aussi de marcher et de sortir un peu de ce contexte-là. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter donc WeInvest, voilà, ce que vous faites en France aussi?
Bien sûr. Alors, WeInvest, à la base, ça a été fondé par Jonathan en 2014. C'est un réseau belge, effectivement, qui est né à Bruxelles. Aujourd'hui, ça fait partie des trois plus grands réseaux belges. Il y a Century 21, ERA et WeInvest. Voilà, on a effectivement une quarantaine d'agences. Alors, des fois, ça peut ne pas parler beaucoup en France, mais pour la Belgique, c'est énorme. Ouais. Ramené à l'échelle du pays, on est deuxième en part de marché. Voilà, aujourd'hui, le modèle, parce qu'on me pose souvent la question, mais est-ce que c'est encore une start-up? Bah, au bout de 10 ans, non, c'est plus une start-up. Le modèle est déjà économiquement solide, c'est-à-dire qu'on a déjà de la rentabilité.
Oui, c'est
dégagée.
Rentable. Hein.
C'est rentable. Alors effectivement, là, sur les 3 années à venir, ça ne sera pas rentable parce qu'on investit beaucoup
en
France.
Pour le développement.
Voilà, pour le développement, et on en parlera. Voilà, mais et puis on a également une émission de télé sur RTL qui s'appelle Je vends ma maison, qui est un peu le pendant de Stéphane Plaza. On vient de re-signer 2 saisons, donc on est parti. Au total, ça fait 6 saisons. Et effectivement, ça nous a permis très vite aussi d'avoir une belle notoriété sur le client final. Et on a, voilà, on travaille vraiment sur la transparence, le collectif et la passion. Et c'est vrai que ça, c'est un peu le modèle belge. Et en Belgique, la petite particularité par rapport à la France, il ne peut pas avoir de mandataire. Donc c'est vrai qu'en Belgique, on est vraiment sur un système de, pour être conseiller immobilier, vous devez être carté, vous devez avoir un numéro d'agrément par l'IPI. Donc il est vrai qu'en Belgique, on est plutôt sur des systèmes de développement en franchise, contrairement au modèle économique français qui est complètement différent. Et par rapport à la France, une de mes premières missions quand je suis arrivé en octobre a été de faire un état du concept belge et de voir si...
C'est réplicable en France.
On avait mis 5 pilotes en France sur l'année 2023. Est-ce que c'était les bons pilotes? Est-ce que c'était duplicable ou pas? Et la réalité, c'était que non, on pouvait pas dupliquer parce que le marché est pas le même. Et sur la France, effectivement, on est parti sur un concept un peu différent qui était de dire on va créer un modèle hybride. Voilà. On va créer un modèle hybride, pourquoi? Parce que si on remonte un petit peu les choses d'un cran, encore aujourd'hui, en 2024, pratiquement 40% du marché de l'immobilier est adressé en direct par particulier et ne passe pas par agence.
Oui.
Voilà, ou par conseiller immobilier. Alors que dans d'autres régions, que ce soit aux États-Unis, même en Belgique, ils travaillent avec pratiquement 90% d'exclusivité et c'est pratiquement 8 acquéreurs sur 10 qui passent par un agent immobilier. Mmh. Voilà. En France, on en est loin et je m'étais dit, je ne comprends pas pourquoi. En France, on a les mandataires d'un côté qui, il faut le dire, il y a beaucoup de mandataires qui font un très bon travail et on a des agents immobiliers qui aussi font un bon travail. Pourquoi il y a une espèce de guerre ouverte entre les agences vitrées et les agences non vitrées alors qu'en réalité, on devrait tous travailler de manière unie pour faire baisser la part du marché du particulier parce que le vrai enjeu, il est là. Surtout qu'aujourd'hui, en 2024, pour un acquéreur, il n'y a rien de plus compliqué que d'acheter en direct. Pourquoi? Parce qu'avec nos nouvelles réglementations, à la fois les réglementations énergétiques, les empreintes, les travaux, même quand on a un bien qu'on veut le mettre en location, toute la loi fait que il est important d'être accompagné
bien
par
sûr.
Un agent immobilier.
Ouais.
Et c'est vrai que chez WeInvest, on dit toujours que le conseiller immobilier, ce qu'on appelle le broker immobilier chez WeInvest, qu'il soit mandataire ou alors qu'il soit agent immobilier, on dit toujours, avant tout, c'est un personal shopper. C'est le personal shopper du client final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être là pour l'assister en toute transparence, l'aider, le conseiller et l'aider à fructifier ses investissements. Et on oublie souvent qu'aujourd'hui, l'immobilier, c'est cher. que c'est souvent pour beaucoup de gens le projet d'une vie et qu'on doit être là vraiment pour les accompagner au mieux.
Voilà. Mmh. En tout cas, c'est une belle vision hein, du professionnel de l'immobilier. Et alors justement, comment vous avez transformé, alors comment vous êtes en train de transformer ce modèle en France ?
Alors, bah, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on a, je voulais pas, comme je disais tout à l'heure, je voulais pas m'écarter d'un modèle. Pour moi, je voulais avoir vraiment une activité de mandataire gérée par le siège, parce que je pense que c'est important. Et je voulais également avoir le développement d'un réseau plus traditionnel, mais qui s'adapte aussi à l'entrepreneur. Aujourd'hui, quand vous êtes en France, bah, soit vous êtes franchisé,
oui.
soit vous êtes mandataire, mmh. ou alors éventuellement vous êtes licencié de marque, mais ça revient un peu ou prou à la franchise sans la transmission du savoir-faire. Et je m'étais dit, mais il y a quand même un sujet dans tout ça, parce que celui qui est conseiller immobilier en agence ou qui veut se lancer comme dirigeant, qui était dans un autre domaine ou reconversion, ou même agent immobilier de proximité, il n'a peut-être pas les moyens tout de suite de pouvoir payer ou investir 30-40 000 euros par an dans une redevance auprès d'un franchiseur. Et il n'a peut-être pas les moyens d'avoir un local vitré aujourd'hui tout de suite. Donc je m'étais dit...
Bah, surtout en ce moment.
Bah, exactement. Je m'étais dit, et surtout depuis le Covid, ouais. je m'étais dit, on va créer un concept qui s'adapte à la situation et aux ambitions de l'entrepreneur à l'instant T. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, chez Winvest, vous pouvez très bien commencer comme mandataire immobilier, évoluer comme dirigeant d'une néo-agence avec une équipe, voilà, où vous travaillez ou de chez vous dans un bureau à un étage, et par la suite, pourquoi pas avoir un point de vente physique et pourquoi pas par la suite se mettre sous franchise. Et à l'inverse, vous pouvez très bien être franchisé et demain repartir en néo-agence ou en licence de marque parce que on le sait très bien, un dirigeant, quand il perd ses collaborateurs ou alors des fois, il a juste envie de se retrouver avec son épouse sans salarié parce qu'il avait du mal à manager et ça arrive, eh bien je me suis dit, il faut pas qu'on puisse lui imposer des modèles. Et aussi, je voulais qu'il ait une liberté de nous quitter tous les ans, sans avoir une clause de non-réaffiliation qui l'interdise de rouvrir une entreprise dans les 12 mois avec une grande enseigne. Parce que là aussi, quand quelqu'un quitte un réseau aujourd'hui, un grand réseau, ça lui coûte entre 20 et 40 000 euros pour se remettre à sa propre ouais. enseigne. Et ça, c'est de l'argent, surtout que dans ces personnes-là, 60% dans les 24 mois reprennent une grande enseigne parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et aujourd'hui, ouais. je pense que...
Surtout en ce moment où c'est compliqué.
Aujourd'hui, un indépendant qui ne fait que de la transaction, et je l'ai toujours dit, il est très à risque. Il y a 10 ans, quand je faisais de l'immobilier d'entreprise et que j'installais des agences dans de la transaction sur des immeubles ou sur du pied d'immeuble en CHR, je guidais toujours développer la gestion locative de locaux professionnels parce que vous ne pouvez pas vous permettre que d'être sur la transaction. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, on a besoin d'avoir des agents qui sont multi-compétences et qui vont dans plusieurs domaines. Et je dis toujours que l'agent en transaction isolé et le courtier en financement qui ne fait que du courtage, lui également est très à risque.
Mmh. Alors en fait, vous offrez un large choix aux personnes qui vous rejoignent.
En fait, le business, avant tout avec nos clients, doit faire preuve de quoi ? On doit faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Eh bien, j'ai rien inventé. Je me suis dit, dans toute ma carrière, je me suis rendu compte qu'un dirigeant, il avait besoin pour faire du business qu'on soit à l'écoute, qu'on soit flexible et qu'on puisse lui trouver des solutions à sa problématique. Et il n'y a pas un dirigeant qui a la même vision qu'un autre. Ça, je pense qu'on peut le partager. Jamais personne n'a la même contrainte. Ouais, ouais. Et je me suis dit, en fait, on doit s'adapter à ces contrats-là pour pouvoir les aider à grandir demain. Et puis, vous pouvez très bien commencer petit demain et demain, vous retrouvez avec une équipe de 20 personnes parce que ça marche bien. Voilà. Et mon objectif a été de dire, je ne veux pas un système MLM pour les mandataires. Je me suis dit, je souhaite avoir des mandataires qui ont vraiment envie de capitaliser sur leur entreprise parce que j'entends souvent dire, mais un mandataire, on ne peut pas le comparer à un agent immobilier, il n'investit pas. Ben si, il investit. Parce qu'en fait, il quitte son entreprise, il prend des risques, il met son épargne. Souvent, il a une famille, des enfants. Ouais. Des bouches à nourrir. Et on sait qu'au bout de 15 mois dans les systèmes MLM, il y en a 60% qui abandonnent ou qui reviennent dans leur ancien métier parce que justement, ils ont cramé de l'argent, ils n'ont pas réussi à performer. Et moi, je me suis dit, quand on voit que la moyenne nationale, c'est 35 000 euros par an pour un mandataire, on doit les aider à faire 70-80 et pourquoi pas les aider à devenir leurs propres dirigeants. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un processus qui leur permet d'obtenir très rapidement la carte T GUS.
Et alors justement, en mai 2024, comment se passe le développement ? Donc là, ça fait 8 mois.
Alors oui, alors justement, comme on crée tout sur la France, il a fallu créer tous les outils, etc. Donc là, on est en pleine finalisation. On ouvre mi-juin, j'ai pris un mois de retard et, parce que comme tout projet informatique, il y a moments où je voulais inclure beaucoup d'IA, parce qu'aujourd'hui, c'est dans le sens de l'histoire, et je voulais impérativement que le collaborateur dans son CRM puisse avoir des leads, qui puisse réchauffer, etc. Donc c'est vrai qu'on a travaillé avec une solution de type PyDrive, etc. pour pouvoir automatiser ça avec notre logiciel métier. Donc ça nous a pris un peu plus de temps. Et puis je voulais aussi qu'ils aient accès à des KPI parce qu'aujourd'hui, la donnée, C'est essentiel. Donc, je voulais que chacun puisse se manager, avoir des éléments, que les dirigeants puissent avoir un vrai contrôle, mais aussi que le conseiller puisse vraiment visualiser sa performance à l'instant T. Donc, tout ça fait qu'on sera complètement opérationnel à partir de mi-juin. Et aujourd'hui, en objectif 2024, on est sur 30 points de vente et 100 mandataires. Pour le moment, les choses se présentent bien, donc on est plutôt très content.
C'est réparti où
Toute la France, pour le coup. Il n'y a pas de zone particulière qui nous contacte. On est vraiment très éclatés. Et ce qui était surprenant, c'est que je m'attendais vraiment, en début de réseau, parce qu'on est peu connu, il faut dire les choses, je m'attendais beaucoup à avoir des petits dirigeants d'entreprise. Quand je dis petit, c'est pas petit, c'est plutôt petit en termes de chiffre d'affaires ou avec peu de collaborateurs. Et dans les contacts qu'on a aujourd'hui très avancés, on est surtout sur des personnes qui ont 1, 2, 3, 4 et voire 5 points de vente et qui sont à la recherche à la fois d'un modèle économique plus rafraîchissant, avec un vrai travail sur la marque employeur. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de dirigeants qui me disent le vrai problème qu'on a, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, le recrutement, on est, nous, en Belgique, deuxième employeur, non pas que dans l'immobilier, hein, deuxième employeur
au niveau national.
D'accord. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Hello Work, avec Welcome to Jungle. On a vraiment une attitude sur le recrutement, un mindset.
Donc, vous savez recruter.
Ce que je dis toujours, c'est qu'on propose à nos collaborateurs de pouvoir, on dit à nos dirigeants qui nous rejoignent, de pouvoir laisser une demi-journée par mois à leurs collaborateurs pour pouvoir faire de l'associatif en local. J'ai une vraie empreinte par rapport à ça, j'ai une vraie sensibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, le recrutement, il passe aussi par l'écoute du collaborateur, comment le conserver, comment le fidéliser, comment lui proposer un plan de carrière. Et je pense qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, on est très en retard sur ces éléments-là par rapport à d'autres segments de métier. Et c'est vrai que chez WeInvest, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. On est très sensible par rapport à ça. Et le deuxième sujet, les gens, beaucoup nous disent qu'ils ont besoin d'économies d'échelle. Voilà. Et qu'aujourd'hui, qu'ils se rendent compte que dès qu'ils ont plus de 10-15 collaborateurs, ils ont besoin d'un réseau solide qui leur propose des outils de communication modernes qui incorporent l'IA, mais de façon intelligente. Parce que pour moi, l'IA doit être incorporée comme une plateforme de service et un peu comme on l'a fait avec les banquiers. Oui. Aujourd'hui, le banquier, on n'a pas perdu la relation avec notre banquier. Bien au contraire, parce que pour toutes les décisions importantes, on passe par le banquier. Par contre, pour la problématique d'opposition de cartes, de relevés, on se débrouille, on est autonome et on en
avec
est tous contents. Avec l'application, en moins de 3 minutes.
Fait, ouais.
Et je pense qu'aujourd'hui, on doit travailler l'immobilier de cette manière-là parce que le client final et surtout la jeune génération, elle s'y est mise.
Donc pour vous, c'est un secteur qui doit encore évoluer, où il y a encore beaucoup de choses à faire.
Après, qui doit évoluer intelligemment, dans le sens où il ne faut pas oublier qu'à un moment, ce n'est pas parce que vous avez ChatGPT que vous faites de l'IA. Non, je pense qu'avant tout, on doit se concentrer sur le parcours du client final, que ça passe par le dépôt de dossier du locataire, etc. Et de pouvoir, à chaque étape clé, pouvoir raccourcir les délais de manière simple et en transparence. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, nos applicatifs ne sont pas encore assez ouverts vers le client pour qu'il y ait une vraie visibilité. Moi, je dis, mon rêve, c'est qu'à un moment, le client il puisse avoir carrément la possibilité de pouvoir regarder son annonce, modifier certaines choses s'il y a besoin, parce qu'on doit être dans une relation de confiance gagnante-gagnante avec nos clients finaux.
Alors, un petit point justement sur le marché belge. Là, l'actualité en France, on a connu une année 2023 très compliquée. Les taux commencent à baisser, hein, ils baissent depuis décembre. Certains parlent d'une douce reprise. Qu'en est-il, que pensez-vous du marché français et puis le comparer peut-être au marché belge?
Bien sûr. Alors, si les gens parlent du marché français, il est vrai que Meilleur Taux nous indique qu'actuellement, on est revenu aux alentours des 3,60, donc c'est plutôt très positif. On est à 3,80 sur des dossiers un peu plus justes et 3,40 pour les excellents dossiers. Après, effectivement, la BCE nous annonce qu'on pourrait encore baisser ça en fin de l'année pour avoisiner les
3%. Oui, au mois de juin, oui.
Voilà. Mais ils mettent une condition qui est importante, c'est que l'inflation soit inférieure à 2%. Donc, je pense que par rapport à ça, dans la transaction dans l'ancien, on peut dire que les voyants sont à nouveau verts parce que les banquiers jouent le jeu et c'est une réalité. Par contre, dans la location et la construction de logements, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la promotion immobilière.
Bien sûr.
Et si je fais un parallèle avec la Belgique, 2023 a été une excellente année sur la transaction, la gestion, mais aussi la promotion immobilière. Or, par contre, là, depuis le début de l'année, transaction et location, pas de problème. Par contre, la promotion immobilière, pour la première fois, est impactée. On est à peu près à moins 15, moins 20% de baisse de promesses. Voilà.
Et ça, c'est dû à quoi, justement, en Belgique ?
Je ne peux pas le dire, très sincèrement. Je ne vais pas inventer que j'ai la réponse à tout. Et eux-mêmes ne l'ont pas forcément. Je pense qu'en fait, ils traversent aussi de leur côté une petite crise. Les prix ont beaucoup augmenté. Comme il y a moins de construction neuve, les prix de l'ancien augmentent. Et ils ont également, chez eux, on appelle ça le PEB, c'est l'équivalent de notre DPE, est très contraignant aussi.
D'accord.
Et donc forcément, il y a des problématiques qui se mettent un peu comme ça. Donc il y a une petite stagnation qui se met en place sur ces éléments-là. Et je pense qu'il est un peu tôt, parce que là, effectivement, il n'y a que 4 mois mois de recul pour avoir une vraie politique par rapport à ça. Peut-être que je vous en dirai plus à un autre moment, mais là, j'ai pas d'autres indicatifs.
Mmh. Et donc, pour le marché français, vous êtes plutôt positif pour...
Je suis très positif pour la transaction dans l'ancien actuellement, parce qu'on le voit bien, je le disais, les banques jouent le jeu, et puis Meilleur Taux et d'autres organismes sont très à l'écoute, et on voit bien qu'il y a eu des projets, on était à plus de 4,50 à un moment, là on redescend. Alors mine de rien, c'est sûr, quand on passe de 4,50 à 3,60, on ne se rend pas compte, mais selon les régions, c'est entre 4 et 20 mètres carrés qu'on gagne, donc ce n'est pas anodin sur la durée d'après.
Voilà.
Donc c'est plutôt positif.
Mmh. Voilà. Alors un petit mot, vous avez parlé justement du côté associatif qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors j'ai, comme je dis toujours, je faisais partie donc de l'Ami des Ateliers, qui est une fondation sur le handicap et une des plus grosses en France, qui permet en fait de loger des personnes en situation de handicap dans des foyers de vie, parce que il y a quelque chose qu'on sait peu, mais plus jeune, on avait des instituts médico-éducatifs qui sont devenus par la suite des centres d'attitude pour le travail pour les personnes handicapées, puis des ESAT, et en réalité, il s'avère qu'au départ, c'est des personnes en situation de handicap moteur qui travaillaient dans ces établissements-là, et de plus en plus, on a des handicaps psychiques, de type schizophrénie, etc., qui arrivent, et ils ont une problématique, comme il y a de moins en moins de donateurs, il y a une problématique de rendement, donc on a dû créer des foyers de vie pour occuper des personnes en situation de handicap avec des handicaps plus lourds, alors qu'il y a encore 10 ans en arrière, on acceptait. Il y a des entreprises comme, par exemple, comme Chef de Bruges, qui ont toujours joué le jeu, de vraiment travailler sur du conditionnement avec eux. Bah, aujourd'hui, on voit bien que c'est plus problématique. Et en fait, on est là pour vraiment accompagner les personnes en situation de handicap, les aider à retrouver en fait, un projet de vie, parce qu'on est beaucoup dans l'humanitude. Comment les accompagner en fonction de leurs possibilités? C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche. Voilà, ça, c'est la première chose. Et puis également, tout ce qui tourne un peu autour de l'école de la deuxième chance. Aujourd'hui, dans l'immobilier, si on fait un pendant, on a beaucoup de mal à recruter. Et je pense qu'on ne va pas suffisamment chercher les recrues où il faut. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en échec scolaire. Et en réalité, comme la restauration à une époque qui séduisait, l'immobilier peut séduire. On peut vraiment bien gagner sa vie. On peut aussi apprendre énormément. C'est-à-dire que c'est une vraie école de la vie. On rend des gens heureux. Voilà. Et aujourd'hui, il y a peu de métiers où on peut se dire qu'on change des vies. On change réellement
bien
des
sûr.
Vies. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Les mauvais moments comme le divorce, comme la perte d'un proche, etc., qui nous oblige à vendre.
À déménager.
Donc, et je me suis dit... au lieu de laisser ces personnes en échec scolaire, aidons-les. Et c'est vrai que j'ai un vrai projet autour de pouvoir en fait réinsérer des jeunes en difficulté de tout milieu, voilà, pour les accompagner à donc via un CFA distanciel à devenir agent immobilier dans les agences WeInvest et pas que. Voilà.
D'accord. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éducation en ce moment. Hein, oui. On parle beaucoup de jeunes aussi. Ouais, et puis des jeunes qui sont parfois un peu perdus. Et c'est vrai que pour vous, voilà, faudrait les aider en ce sens. Donner un...
Je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus, mais qui ne savent pas comment faire non plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'ai plus de 40 ans. Moi, à l'époque, quand en 5e, j'ai été voir une conseillère d'orientation et qui m'a fait calculer, il m'a montré 3 pages et qui m'a dit « tu vas régler dans ces cases-là », je me suis dit « bah wow, c'est vachement compliqué ». Et je trouve qu'aujourd'hui...
Puis en 5e, on est jeune.
Et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui, entre les réseaux sociaux, etc. Attendez, aujourd'hui, tous les jours, on voit des influenceurs qui vous expliquent qu'en moins d'un mois, vous allez gagner 10 000 euros par mois. Voilà. Donc arrivé un moment, moi, je suis désolé, j'ai pas de baguette magique. J'aurais bien voulu le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc certes, il y a une fraction pour qui ça fonctionne, et heureusement, et c'est top, voilà, parce que c'est aussi le sens de l'histoire, il faut s'adapter. Mais je pense que pour les autres, il faut aussi remettre la culture du travail. Et c'est vrai que je pense qu'aussi, il y a des parents qui sont un peu dépassés par les événements. Et je pense qu'aujourd'hui, et ça, c'est pas à moi de dire les choses, je pense qu'on doit en tout cas aider les parents à retrouver leur rôle et à remettre du sens dans l'éducation. Parce que quand tu as 8 ans, un enfant a un téléphone portable, est-ce qu'au fond, c'est pas trop tôt? J'ai pas la réponse, mais je pense qu'on doit remettre un petit peu la culture du travail et...
Qu'on a perdu, selon vous, en France?
Alors, je peux pas dire qu'on l'ait complètement perdu.
Les réseaux sociaux aident pas, en tout cas.
Les réseaux sociaux aident pas, mais à côté de ça, j'ai jamais vu autant de jeunes qui veulent être indépendants. Moi, je le vois dans tous les collaborateurs que je recrute, quand je leur demande quelle est votre vision, ils veulent de l'autonomie, de la confiance et être managé à la tâche. Et j'ai toujours managé mes collaborateurs à la tâche et pas à l'horaire, parce que pour moi, c'est complètement bête. Moi, je fais partie de ces gens, j'adore le télétravail et je trouve qu'on en a besoin et ça fait partie maintenant d'un mode de vie. Et je pense qu'on doit surtout, quand on est manager...
Besoin à 100% ou...
Non, je pense que des collaborateurs eux-mêmes, ils souhaitent un mix, c'est-à-dire que full télétravail... En moyenne, oui, je pense que 2 jours par semaine de présentiel, c'est intéressant. Voilà, ça permet de voir ses collègues, de pouvoir partager des autres moments qu'on ne fait pas en distanciel. Parce que souvent, j'entends dire des dirigeants qui me disent « Ah, moi, je ne veux pas de télétravail parce que les gens, ils ne travaillent pas. » C'est faux. Souvent, en télétravail, les gens travaillent plus. Ils font très peu attention à leur pause repas. Ils essayent de traiter un maximum de choses. Et qu'est-ce qu'on en a à faire?
Il y a les deux écoles en fait. Il y a ceux qui travaillent plus justement parce que en plus on n'est pas dérangé par les autres collègues ou voilà. Et comme vous dites, on mange devant son ordi, etc. Puis après, il y a ceux aussi qui sont peut-être moins adaptés. Ça dépend de la personne en fait.
Vous savez, quand je dis toujours en rigolant, quand vous managez des collaborateurs à la tâche, en fait, celui qui n'est pas dans un premier temps, parce que c'est plus compliqué pour lui, il peut venir au bureau quand il veut. Mais la réalité, si on lui donne les bons outils et qu'on lui fait confiance, petit à petit, très vite, il commence à voir les bienfaits du télétravail. Moi, j'ai toujours dit à un collaborateur qui reçoit un colis ou qui a besoin que le plombier passe à la maison, mais au contraire, fais-le. Par contre, si tu as quelque chose à livrer le lendemain à l'heure, bah, tu le feras, point, c'est tout. Et je pense que ça, c'est un vrai élément. Et je crois qu'on a besoin de retrouver un peu de sens, voilà, de sens par rapport à ça. Je pense qu'on a besoin de confiance. On a besoin de managers qui fassent confiance à leurs collaborateurs et de retrouver au
sens. Mais ça s'est perdu, la confiance au travail, vous trouvez ?
Je trouve qu'elle a tendance à revenir. Au contraire, voilà, dans beaucoup de métiers, en tout cas dans l'immobilier, mais il y a encore trop d'activités où les gens font pas confiance à leurs collaborateurs, c'est une réalité. Sinon, on aurait beaucoup plus de télétravail et ce serait pas un sujet.
L'émission touche bientôt à sa fin. On est vendredi. Mmh. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ce week-end ? Quel est votre programme ?
Alors, mon programme, il est assez simple, il est très précis. Je plante mes tomates.
Ah, c'est la période.
C'est la période. Demain matin, je plante mes tomates. Une fois que j'ai fait ça, j'ai prévu d'aller faire un peu de sport. Oui. Voilà. Et j'ai prévu d'aller faire quelques achats, de voir des amis samedi soir. Parce que j'adore bien manger et j'adore ouvrir une bonne bouteille de vin. Donc, ça sera l'occasion d'ouvrir une bonne bouteille de vin. Et généralement, le dimanche, c'est les corvées. Voilà. Donc, dimanche, pas mal de petites corvées. J'ai mon garage à ranger, des choses comme ça. Et puis, pareil, dimanche midi, généralement, je fais un petit repas tranquille. J'adore cuisiner. Oui. Donc, je vais faire à manger.
Oui, c'est vrai que la cuisine est une passion. Mais vous cuisinez très bien. Hein,
Alors, j'essaye de cuisiner correctement. Tous les mois, effectivement, je cuisine pour toutes mes équipes. On est une quinzaine et D'accord. C'est vrai que j'ai plaisir à le faire. Et dès que j'invite du monde, j'adore recevoir. Et je pense que c'est un peu mon ancienne vie qui fait que j'ai toujours aimé, en fait, découvrir des nouvelles saveurs. J'ai toujours aimé la bonne nourriture, le bon vin, déguster un cigare de temps en temps. J'aime la qualité, non pas la quantité. Et je dis toujours que j'aime tout ce qui est un peu élégant et raffiné dans la nourriture. Et donc, je suis toujours dans l'idée de me dire qu'est-ce que je peux reproduire. Après, à mon humble niveau, je fais des choses comme... Je suis capable d'aller de la pièce montée au millefeuille, donc c'est pas si nul. J'adore faire mon pâté en croûte.
Pièce montée, donc pour les mariages,
c'est ça. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc, Et quand je sais pas faire, très sincèrement, comme tout le reste dans ma vie, je bûche. Je fais des erreurs et j'essaye d'y arriver. Voilà.
Donc vous recommencez la recette.
Je suis capable de recommencer 4-5 fois jusqu'à qu'elle ait plutôt la texture qui m'intéresse.
Et vous êtes plutôt sucré ou salé ? Alors vous êtes plutôt pâtisserie ?
Alors j'étais plutôt très sucré et maintenant effectivement avec le temps je deviens un peu plus salé.
Et qu'est-ce que vous faites alors comme plat par exemple, une de vos spécialités ?
Une de mes spécialités, j'adore faire le pâté en croûte, voilà, donc ça c'est un vrai élément. J'aime travailler la viande, donc je peux faire par exemple un cochon de lait farci au foie gras avec un peu de truffe quand j'invite du monde. Également le poisson, je fais un risotto au sol et aux pointes d'asperges vertes. Enfin voilà, une petite salade de langoustine en kadaïf, je fais également repas japonais, des ramen, etc. Voilà, j'ai pas forcément de choses particulières. Et en dessert, j'aime beaucoup faire tout ce qui va être Paris-Brest. Voilà, ou tarte aux fruits rouges avec une pâte sablée, avec une petite crème d'amande, des choses comme ça.
Écoutez, on va vous inviter à la maison pour cuisiner.
Avec plaisir, pourquoi pas, ce serait peut-être une émission à faire.
On se quitte en musique, alors Jane Makeba, pourquoi ce choix musical ?
Eh bien là, pareil, parce que ça parle de résilience, ça parle de force, ça parle de puissance, ça parle de pouvoir aider les autres. Et je trouve qu'en réalité, c'est quelque chose qui me va bien, j'ai toujours souhaité... aider les autres. Voilà, c'est un élément, que ça soit dans le handicap, dans l'associatif, dans autre. C'est ce que je dis toujours à mes copains. Quand tout va bien, j'appelle personne. Par contre, si un copain va pas bien et qu'il m'appelle, c'est qu'il va pas bien. Auquel cas, je peux annuler tout ce que j'ai sur mon agenda pour pouvoir aller voir mon copain ou mon ami pour lui dire qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider, etc. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir des amis fidèles, sincères, et qu'on doit être là pour eux. Donc je trouvais que c'était une chanson qui allait bien.
Donc une chanson sur la solidarité.
Oui, c'est exactement ça.
Eh bien, merci beaucoup Xavier Bellevaux, donc directeur général de WeInvest. On était ravis de vous recevoir dans le Mac de l'Imo.
Moi également.
À très bientôt et nous on se retrouve la semaine prochaine. À très vite sur Radio Imo.
Makeba makes my body dance for ya. Ooh, makeba. for you.
I wanna hear your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing, I wanna see you fight, 'cause you are the real beauty of human rights. Ooh, my goodbye, my life. You follow the beat that she's gonna give ya. Only a smile you can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, ooh, make it by, make it by, make it by.
Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.